Ah, bon, on y va.
C'est parti. Donc,
Ben, je lance la petite introduction au nom de l'université. Alors, c'est Laurent Mattei qui nous accueille en général pour ce cours public. Il s'excuse de ne pas être parmi nous. Parce que vous avez fait un échange, il est à Paris en ce moment. Il n'y a pas encore de don d'ubiquité, peut-être heureusement, quelque part pour lui. Donc, ben, on est ici pour cette deuxième séance du cours public intitulé « Nouvelles architectures de la décision collective ». On a eu une première séance il y a quelques semaines, assez concrète, je pense. On nous a présenté un tiers-lieu de Lyon, la mine et Daisy, c'est ça? Je sais pas comment ça se...
Daisy, mettons pas le tiers-lieu, peut-être.
Oui, un groupe de recherche, j'ai vu un petit peu. Voilà, on est ici pour s'interroger globalement sur les dispositifs, les nouveaux dispositifs de décision collective, avec un ensemble de mots-clés, les communs, comment ils nous conduisent à remettre en cause les cadres traditionnels et de la prise de décision, de la délibération, de comment on attribue des budgets aussi, au passage. On cherche à s'interroger de façon assez pratique sur ces lieux concrets, notamment ces tiers lieux de la décision collective. Mais aujourd'hui, avec Monsieur Blondiot, on aura sans doute une réflexion un peu plus théorique. Il nous propose de nous parler de ses travaux, ses recherches actuelles, ses réflexions autour de l'effondrement de la démocratie. Donc, je pense qu'on va pouvoir discuter avec le petit groupe que nous sommes. Donc, c'est la parole. Je vous laisse peut-être vous introduire.
Oui, je vais faire moi-même. Merci pour l'invitation. Donc, pour compléter un peu, je trouve très intéressant l'objet de votre séminaire ou de votre cours public, parce que c'est là-dessus que je travaille quand même depuis très longtemps, sous différents angles, c'est-à-dire en tant que sociologue qui observe des démarches, qui observe des dispositifs, en tant que théoricien qui réfléchit à la portée de ces instruments sur le changement et le fonctionnement des démocraties, en tant qu'activiste aussi, puisque je participe plus ou moins, de manière plus ou moins opérationnelle, à pas mal de mouvements, d'associations, de collectifs qui défendent l'idée selon laquelle on peut effectivement décider autrement, faire vraiment participer les citoyens en processus de décision. Et à Paris, on a un lieu qui s'appelle les Halles civiques, où se retrouve une partie de ce petit écosystème associatif, un lieu qui nous a été concédé provisoirement par la mairie de Paris. Alors, c'est des collectifs, bon, je ne suis pas sûr que vous en ayez entendu parler, comme Démocratie ouverte, qui est plutôt orientée vers les civic tech, technologies civiques. On a fait une lettre ouverte, là, à Emmanuel Macron, il y a la semaine dernière, je crois, pour lui proposer une autre manière d'organiser le grand débat. Il y a l'Institut de la concertation, de la participation citoyenne, qui regroupe maintenant 1300 praticiens et chercheurs qui travaillent sur les questions de participation. Et d'un point de vue académique, moi j'ai été à l'origine de la création de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Et j'ai été aussi à l'origine, avec d'autres, de la création d'un groupement d'intérêt scientifique. Alors ça, c'est plutôt le volet universitaire, de chercheurs qui travaillent sur les questions de démocratie participative, de démocratie délibérative, et qui fonctionnent lui aussi plutôt bien. Il y a une cinquantaine de laboratoires qui y sont associés. Alors les deux se sont regroupés pour mettre en place, là, alors c'est tout récent, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, mais un observatoire du Grand Débat National qui va essayer de produire des retours, des observations, des réflexions sur ce que produit ce Grand Débat, sur la manière dont il est produit et ce qu'il produit, sachant, vous le savez peut-être, qu'il est parti sur des bases qu'on peut juger démocratiquement fragiles, puisque c'est un grand débat qui est organisé par le pouvoir et très vraisemblablement pour le pouvoir. On alerte là-dessus. Ce matin, j'ai fait un grand entretien, mais alors je ne sais pas si Télérama est lu en Suisse, je ne crois pas, mais, pour un hebdomadaire qui s'appelle Télérama là-dessus, où je dis que ce grand débat a plus des allures de monologue que de véritable débat citoyen. Alors, bon, j'ai un peu de scrupule à parler en Suisse de ces questions de démocratie. Mon point de vue sera français, hein, évidemment, mais peut-être aussi plutôt européen, puisque je vais m'interroger sur une question qui m'intéresse aujourd'hui, et je vais laisser le maximum de place à la discussion ensuite, sur des aspects peut-être plus pratiques, qui vous intéresseront, plus opérationnels. Je vais vous présenter un travail que je suis en train de mener à bien, ou en tout cas une réflexion dans le cadre d'un petit bouquin pour la collection de Rosan Vallon, sur l'effondrement des démocraties, hein, et les moyens éventuellement d'en sortir, ou en tout cas de l'éviter. Puisque ça ne vous a peut-être pas échappé, depuis quelques mois, un certain nombre d'inquiétudes, hein, donne lieu, un sentiment d'inquiétude donne lieu à l'apparition de plusieurs ouvrages. Je pense à deux ouvrages qui ont été traduits en français, qui sont des best-sellers aux États-Unis l'un et l'autre, et qui, de manière assez étonnante, ont été traduits très rapidement en France, et qui, tous les deux, traitent de la même question, à savoir la mort des démocraties. C'est-à-dire, le premier, c'est Comment meurent les démocraties, hein, How Democracies Die, de Levitsky et Ziblatt, qui vient d'être traduit la semaine dernière. Et l'autre est plus connu, fait couler pas mal d'encre, c'est The People versus Democracy, le peuple contre la démocratie, d'un politiste de Harvard qui s'appelle Yasha Monk. Et en fait, les deux ouvrages, finalement, essayent de réfléchir à un processus visible dont différents indices témoignent de l'actualité, qui est celui du basculement de ce qu'on appelait jusqu'alors les démocraties libérales, électorales, vers des formes plus autoritaires que certains appellent démocratie illibérale, ou qu'on peut tout simplement qualifier de régime autoritaire. Sachant qu'entre l'autoritarisme et la démocratie, il y a une sorte de continuum. Là, on est dans des zones grises. Hein, on sait clairement que la Russie, c'est un régime autoritaire, mais il est beaucoup moins clair de savoir ce qu'est la Hongrie, ce qu'est la Pologne ou ce qu'est en train de devenir le Brésil. Alors, pourquoi c'est intéressant de réfléchir à ça? Alors, la question, c'est finalement si on se reporte 20 ans, 20 ans en arrière, au moment où moi j'ai commencé à travailler sur les questions de démocratie participative et à orienter la plupart de mes recherches sur cette question, on avait le sentiment que la démocratie libérale électorale était la fin de l'histoire. Hein, c'était Francis Fukuyama, son fameux livre sur la fin de l'histoire, 1990, qui disait finalement la démocratie libérale n'a plus d'adversaire, tout comme le capitalisme, et on est à peu près dans la situation que décrivait Hegel, c'est-à-dire d'une forme d'accomplissement, hein, de l'histoire, puisqu'il n'y a plus là de mouvement dialectique. Hein, il y a une seule forme de vie qui semble l'avoir emporté sur toutes les autres. C'est le moment de la chute du mur. Et ceux qui réfléchissaient finalement à la question de la démocratie participative le faisaient sur un mode qui était alors considéré comme un peu accessoire, hein, c'est-à-dire la démocratie participative, elle devait venir en quelque sorte accompagner, compléter, agrémenter le fonctionnement de la démocratie représentative. Aujourd'hui, il est clair que nous nous situons dans un moment très différent, dans un moment charnière, dans un moment où c'est l'existence même des institutions de la démocratie représentative qui est remise en cause. Et on voit bien, par exemple, au travers du mouvement des Gilets jaunes en France, avec quelle violence, avec quelle intensité sont remises en cause les principes sur lesquels elles reposent. Alors peut-être que de Suisse, l'onde de choc de ce mouvement des Gilets jaunes vous a peut-être échappé, mais en France, il y a une vraie onde de choc. Il y a une vraie quelque chose qui est perçu par tout le monde comme une critique extrêmement forte, mais aussi comme une remise en cause radicale de la démocratie représentative, voire même du principe même de la représentation dans une partie des catégories populaires. Et ça, c'est la grande nouveauté sur laquelle il est nécessaire de s'interroger, c'est que pour la première fois depuis des décennies, les catégories populaires ont pris la parole, ont investi l'espace public et font l'objet de nouveau d'une sorte d'inquiétude, hein, sourde de la part, et quelquefois très explicite, de la part des élites. Hein, donc on est dans un vrai mouvement social, même Alain Touraine a dit que c'était un mouvement social, mais quelque chose qui est susceptible de remettre en cause assez fortement le rapport des forces existant entre les différents groupes sociaux. Alors, avant d'entrer dans la réflexion, je voudrais placer cet exposé sous un titre liminaire que j'emprunte à Charles Dickens dans un de ses meilleurs romans qui porte sur la Révolution française et qui dit « It was the worst of times, it was the best of times ». C'était le pire des temps, c'était le meilleur des temps. C'est-à-dire, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais montrer en quoi, finalement, il est légitime de parler d'effondrement. Et légitime de s'interroger sur la nécessité aujourd'hui d'étudier les différentes dimensions de cet effondrement des institutions démocratiques. Et dans un second temps, je vais essayer de montrer en quoi un certain nombre de signes nous permettent de penser qu'il y a, sinon des alternatives, du moins d'éviter cette déchirure, hein, à peu près complète entre les élites politiques et les citoyens. Donc, it is the best of times, c'est-à-dire qu'il y a des signes de renouvellement, des signes de renouveau, des signes même de renaissance de l'idéal démocratique. Alors, avant d'entrer dans ce raisonnement à deux temps, je vais rappeler ce qu'est l'idéal démocratique. Je vais le faire d'une manière très théorique, mais à mon avis extraordinairement nécessaire, puisque quand on parle de démocratie, on ne sait pas de quoi on parle en général, et en particulier les acteurs politiques tendent à confondre un certain nombre d'idéaux. Pour moi, il y a trois idéaux majeurs qui sont rassemblés derrière cette idée plus générale de démocratie. Trois idéaux qui ne coexistent pas forcément facilement les uns avec les autres. Le premier idéal, c'est un idéal de souveraineté populaire. C'est l'image d'Épinal de la démocratie. C'est la fameuse phrase d'Abraham Lincoln, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, auquel on résume souvent, en France en particulier, cette forme de régime politique. On peut le formuler autrement. C'est l'idée, c'est la définition de Robert Dahl, le politiste américain Robert Dahl, qui a beaucoup écrit sur ces questions, qui dit, au cœur de l'idéal démocratique, il y a l'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision. L'égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision. Non seulement il y a un double principe, le pouvoir donc réside ultimement dans le peuple, la légitimité et le pouvoir appartiennent au peuple. Et puis, il y a un principe d'égalité politique. Au sein du peuple, chacun a l'égale possibilité d'influencer les choix collectifs. Alors, on voit bien comment cet idéal, il sous-tend nos régimes politiques, comment il a été instrumenté, cet idéal, par différentes institutions. L'institution parlementaire, à commencer par l'institution parlementaire, mais le suffrage universel. Le suffrage universel est l'instrument qui, d'un certain point de vue, matérialise cet idéal. Le principe un homme, une voix, et le principe qui, effectivement, nous permet de dire que nous sommes en démocratie. Hein. Et avec évidemment cette limite que beaucoup d'observateurs, beaucoup d'acteurs ne vont pas au-delà de ce principe, en considérant qu'il suffit qu'on mette en place le suffrage universel pour que, ipso facto, nous soyons en démocratie. Mais au-delà du suffrage universel et de l'institution parlementaire, les partis politiques sont venus, d'un certain point de vue, garantir la possibilité pour les citoyens d'influencer le processus de décision politique. Les partis politiques, depuis le début du XXe siècle, sont ce qui assure finalement cette possibilité d'influence des citoyens sur le jeu politique. Donc les partis politiques sont partie prenante de cette première composante de l'idéal démocratique. Donc idéal, souveraineté du peuple, et idéal d'auto-gouvernement du peuple. Mais il y a un deuxième idéal et une deuxième composante de l'idéal démocratique qu'il n'est pas possible d'écarter et qui est consubstantiel, de mon point de vue, au premier. C'est ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire c'est le respect d'un certain nombre de libertés individuelle et collective, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de communication. Et sans cet état de droit, il n'y a pas de souveraineté du peuple à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les dissocier, hein, on peut imaginer que le pouvoir repose sur la volonté majoritaire, mais si tout cela se fait dans un contexte de répression et d'absence de liberté, il est difficile de soutenir que l'on soit dans une démocratie pleine et entière. Et la contradiction entre ces deux principes, elle se donne à voir notamment dans la problématique des démocraties illibérales. Les démocraties libérales respectent la volonté majoritaire, c'est le suffrage universel qui désigne les gouvernants, c'est la majorité finalement qui fait la décision, mais tout cela se fait dans un contexte d'absence, ou en tout cas de régression des libertés, qui est parfaitement problématique d'un point de vue politique. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il est difficile de considérer qu'on puisse envisager la démocratie indépendamment du libéralisme politique. Il ne peut y avoir de démocratie que de démocratie libérale. Et j'y reviendrai, c'est un point très important. Il faut, par exemple, que la séparation des pouvoirs puisse être respectée. La séparation des pouvoirs, elle relève de l'état de droit. Il faut que la presse puisse exercer son rôle, il faut que ces libertés puissent être préservées. Mais il y a une troisième dimension à l'idéal démocratique, une troisième et une qui est souvent passée sous silence, et en particulier dans un pays comme la France, où cette question est reléguée comme une question secondaire. La démocratie, ça ne peut pas être uniquement des institutions, ça ne peut pas être uniquement des principes. La démocratie, ça renvoie à des formes de vie. Et évidemment, des auteurs aussi importants que Aristote, Tocqueville ou John Dewey n'ont cessé de le rappeler. Il n'y a pas de démocratie sans actualisation des principes démocratiques dans la vie ordinaire, par les citoyens eux-mêmes. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui agissent en démocrate. La démocratie, ça n'est pas uniquement un socle institutionnel, ce sont des manifestations et des mobilisations et un type particulier d'interaction dans lesquelles les citoyens se comportent comme des démocrates. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que finalement, chaque citoyen se sente suffisamment légitime et puisse participer effectivement au processus de décision. Ça implique aussi que les citoyens se traitent les uns les autres comme des égaux. Ça, c'est le principe cardinal. Il faut qu'il y ait un sentiment d'égalité à ce point répandu dans la société pour que les rapports de domination n'interdisent pas certains citoyens d'exercer leurs droits. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie aussi que les citoyens partagent un certain nombre de valeurs, valeurs qui sont liées, valeurs de tolérance, valeurs liées à la capacité à écouter l'autre, à se soumettre au point de vue majoritaire, etc. Valeurs qui peuvent ou non être universellement partagées. Ça signifie aussi, et ça c'est un point qui me paraît absolument capital, que la démocratie n'existe pas que dans les espaces politiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons effectivement, à travers le suffrage universel, dans les relations politiques, des manifestations finalement de l'existence de cet esprit de la démocratie. Mais ailleurs, dans l'entreprise par exemple, est-ce que finalement le fonctionnement des entreprises répond à ces valeurs démocratiques? Non. Les entreprises sont des lieux où s'exerce une domination plus ou moins forte. Alors, évidemment, il y a tout ce pan de l'économie sociale et solidaire. Mais en démocratie, les travailleurs ne peuvent pas prétendre être reconnus comme des sujets véritables ou comme capables d'influencer le processus de décision. À l'école, de la même manière. Est-ce que effectivement on fait l'épreuve de l'égalité, on fait l'épreuve de la coopération dans un lieu comme l'école? Est-ce que dans toutes les institutions finalement qui structurent la société, ces valeurs démocratiques ont une réalité? Cette expérience de la démocratie est encouragée ou apprise? La question, la réponse évidemment est dans la question, en tout cas dans un pays comme la France, et à des degrés variables selon les types de sociétés, on s'aperçoit que des institutions démocratiques coexistent avec des sociétés qui sont structurées par des rapports d'inégalité, hein, qui n'ont rien de véritablement démocratique. Et la société française, de ce point de vue-là, on est à une forme de paradigme, hein, d'exemple à peu près... bon. Alors... Voilà pour les trois dimensions de l'idéal démocratique, voilà pour les principes. Dans quelle mesure aujourd'hui ces principes sont-ils remis en cause? Alors, je vais d'abord me débarrasser de tout ce qui menace de l'extérieur les institutions de la démocratie dans ce que nous appelons les démocraties libérales représentatives. Ces menaces extérieures, elles sont toutes à prendre en compte et elles sont toutes... elles sont toutes caractérisées. Je range parmi ces menaces, évidemment, la crise environnementale, c'est-à-dire pour moi, là, effectivement, tout ce dont nous parlons est surdéterminé par des éléments de contexte qui risquent très rapidement, hein, à court, beaucoup plus qu'à moyen terme, de perturber le fonctionnement des démocraties. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que nous puissions maintenir des institutions, les institutions que nous connaissons, dans un contexte de guerre climatique, de lutte pour les ressources de vie, pour les ressources naturelles. Il n'est pas sûr que nous puissions non seulement maintenir la cohésion de nos sociétés, mais aussi leur gouvernance démocratique. Alors, je n'ouvre pas le débat autour de solutions autoritaires, le fameux despotisme éclairé dont parle Ancionas, mais il n'est pas sûr que nous puissions tout à la fois permettre à la démocratie de survivre et prendre les mesures. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, notamment avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Dominique Bourg, hein, qui enseigne ici en Suisse. Il y a effectivement toute une problématique de la conciliation entre la démocratie et la survie de nos sociétés. Mais parmi les autres éléments de perturbation, il y a évidemment l'émergence de régimes qui viennent interférer, ou en tout cas l'affirmation de type de domination politique, qui viennent interférer avec le fonctionnement ordinaire de nos sociétés. Alors, la Russie, évidemment, la manière dont elle est capable aujourd'hui d'interférer avec les élections, mais aussi avec le débat démocratique dans nos sociétés. Hein. Vous le savez, en France, on est extrêmement préoccupé par cette question. Certains médias, comme Russia Today, commencent à connaître, sont les médias préférés, c'est le média préféré des Gilets jaunes, hein, Russia Today, hein, alors que c'est un média qui est complètement destiné à venir parasiter hein, à travers une forme de soft power un peu modifié le fonctionnement de nos démocraties. Là, on découvre, hein, c'était hier, que l'un des principaux conseillers du président Macron travaillait pour et avec un des très proches du président Poutine. Donc, on a ces éléments de perturbation extérieure et qui, évidemment, peuvent à tout moment déstabiliser nos démocraties. Pour ne rien dire effectivement du terrorisme, pour ne rien dire également de, excusez-moi, pour ne rien dire également, bon, peu importe, mais ça, vous êtes évidemment averti toutes ces questions. Ce sur quoi je vais m'arrêter là dans cette intervention, c'est sur les pathologies propres aux démocraties, c'est-à-dire sur les menaces internes, hein, si on se permet cette métaphore organique, hein, c'est sur les... Bon. Alors, si on prend une à une les différentes dimensions de l'idéal démocratique, de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit d'abord que la souveraineté du peuple n'est jamais autant apparue qu'aujourd'hui comme une fiction pure. C'est-à-dire que la possibilité pour le peuple, à travers l'élection ou à travers les partis politiques, d'influencer le processus de décision n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, qui dirige effectivement dans nos sociétés ? Ce sont des pouvoirs non élus. Ce sont des acteurs qui n'ont pas été élus. Ce sont évidemment les marchés, ce sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, ce sont les entreprises transnationales qui ont une capacité d'exercer un droit de veto ou un chantage tel sur, notamment au travers de la dette, sur nos gouvernements, finalement, les marges d'autonomie du pouvoir politique se sont progressivement affaiblies. Donc, le vrai pouvoir n'est pas dans l'élection. Et ce n'est pas les Grecs qui, après avoir émis une position au travers du référendum, se sont vus contraints finalement d'accepter ce qu'ils avaient refusé, qui diront le contraire. Et tout ce qui témoigne aujourd'hui de l'intrication, de la circulation entre un certain nombre d'acteurs qui successivement occupent des positions dans l'espace politique, dans l'espace économique, dans l'espace de la direction des grandes entreprises et dans l'espace de la haute fonction publique, hein, le fait qu'on retrouve d'anciens dirigeants à la tête de telle ou telle entreprise montre qu'il y a une sorte de pouvoir qui aujourd'hui est très peu influencé par les citoyens. Et ce sentiment d'impuissance a été totalement intériorisé par les citoyens. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que le sentiment que l'élection ne décide plus de rien. Alors évidemment, vous avez peut-être vous en Suisse qui êtes dans une situation un peu exceptionnelle, à certains titres dérogatoires, grâce évidemment à vos mécanismes de démocratie directe, ce sera peut-être différente. Mais ce sentiment, par exemple, moi je ne peux pas intervenir devant une assemblée en France sans qu'on me rappelle l'épisode du traité constitutionnel européen. Traité constitutionnel européen, la France refuse ce traité par référendum. Deux ou trois ans plus tard, le contenu de ce référendum, le contenu de ce traité est imposé par une autre voie. Et le sentiment d'un déni de démocratie, le sentiment d'une sorte de trahison de la part des élites est répandu dans, aujourd'hui, dans la majeure partie de la population. Alors ça peut provoquer quoi comme réaction ? Ça peut provoquer d'abord une réaction de fatalisme, à quoi sert-il d'aller voter, puisque de toute façon, la politique qui sera menée sera la même. Elle sera dictée par les marchés, elle sera dictée par les pouvoirs économiques. Alors, à quoi sert-il de s'intéresser aux pouvoirs politiques? Et l'autre réaction qui aujourd'hui surprend, hein, c'est de dire finalement, il y a, alors elle peut même être traduite dans le vocabulaire du complot. Il y a un complot. De toute façon, le pouvoir politique n'est plus qu'une façade. Et aujourd'hui, derrière, il y a un complot. Sondage de ce matin, 25% des Français interrogés croient aux Illuminati. Hein. 25%, hein, c'est-à-dire cette secte qui serait censée aujourd'hui tirer les ficelles du pouvoir à travers le monde, elle peut être retraduite comme ça et elle peut susciter des réactions de défiance extrêmement fortes. Et les gilets jaunes sont évidemment la traduction de ce sentiment d'absolue trahison on y entend hein, ce sentiment de ne plus être représenté et ce sentiment selon lequel le pouvoir ne gouverne plus que pour une fraction d'ultra-riches. Hein. C'est ça l'idée qui aujourd'hui s'est imposée, l'image de Macron président des ultra-riches, défendu par les ultra-riches, avec des médias qui effectivement travaille pour lui, c'est un sentiment qui est aujourd'hui très largement partagé. Donc on voit bien comment ce premier idéal, aujourd'hui, ne suscite plus véritablement de croyances et il ne correspond plus véritablement à la réalité. Parce que les travaux de sciences politiques nous montrent qu'effectivement, aujourd'hui, la marge de manœuvre des pouvoirs politiques est relativement limitée. Alors, évidemment, le président français ou le président américain ont encore des possibilités d'interférer. On voit Donald Trump prendre quelquefois des décisions qui ne sont pas en cohérence avec, ce que souhaite l'oligarchie financière et économique, mais c'est relativement marginal. Deuxième idéal qui vacille, et je vous incite à réfléchir aussi à ce point, c'est effectivement la question des libertés aujourd'hui qui est posée. On assiste de manière plus ou moins spectaculaire selon les pays à une régression des libertés fondamentales, à une remise en cause de ces libertés. On assiste en France à des démonstrations assez claires hein, de ce processus de régression des libertés qui se fait à bas bruit et qui se fait surtout sans susciter véritablement de mobilisation chez les citoyens. Vient d'être prise une loi en France, dite loi anti-casseur. Loi anti-casseur qui permet aux préfets, c'est-à-dire au pouvoir administratif, d'empêcher certains citoyens de manifester, c'est-à-dire de remettre en cause leur liberté de manifestation. Des députés peu sujets à la contestation, hein, des députés de droite aujourd'hui, des juristes extrêmement nombreux, aujourd'hui se mobilisent pour dénoncer cette loi et d'un certain point de vue, elle témoigne de ce qu'un de mes collègues qui s'appelle Grégoire Chamaillou appelle le néolibéralisme autoritaire. Le néolibéralisme autoritaire est une des voies possibles que peuvent prendre nos sociétés. Le néolibéralisme autoritaire, c'est un type de gouvernement qui peut éventuellement être issu du peuple, mais dont finalement toute l'idéologie repose sur la mise en place finalement de mécanismes de privatisation des services publics et d'extension du marché. Ce néolibéralisme autoritaire peut s'appuyer sur des moyens de répression relativement forts. Et puis, la dernière remise en cause, c'est aussi celle des valeurs démocratiques. C'est-à-dire que ce que d'aucuns ont appelé la brutalisation du débat public dans nos sociétés, la polarisation, le fait qu'il est devenu de plus en plus difficile, et du fait notamment des mécanismes, des réseaux sociaux, difficile d'introduire le dialogue, de faire valoir des exigences de compromis entre les différents acteurs et les différentes forces en présence. Aujourd'hui, cette question est posée. Alors, il y a la question de l'antipolitique, c'est-à-dire du rejet a priori de toute forme de médiation, de toute forme de représentation, qui s'exprime notamment chez les Gilets jaunes. Un des enseignements de ce mouvement, c'est que il y a dans ce mouvement des gens qui disent vous ne nous représentez pas, mais il y a aussi des gens qui disent nous ne voulons pas être représentés. C'est-à-dire des gens qui poussent une critique du principe même de la représentation, une critique des intermédiaires en démocratie, qui débouche finalement sur l'utopie finalement d'une absence de corps intermédiaire ou d'une absence de médiation dans l'espace politique. Et par exemple, vous avez vu que les Gilets jaunes défendent une mesure, et ils se sont focalisés sur une mesure, qui est le référendum d'initiative citoyenne, mais qui n'a rien à voir avec l'initiative suisse, qui est relativement cadrée, hein. Mais ce référendum d'initiative citoyenne doit permettre tout à la fois aux citoyens de proposer et de voter des lois, mais aussi d'abroger des lois prises par l'Assemblée, mais aussi de révoquer les citoyens. C'est une forme de couteau suisse, hein, démocratique, qui laisse à penser que leur désir est de se débarrasser finalement des assemblées, de se débarrasser de toute forme de médiation. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique dans nos sociétés, et moi, elle me touche fortement. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux mécanismes de démocratie participative et délibérative, mais aujourd'hui, ce qui est menacé, hein, ce sont tous les corps intermédiaires, qui sont à la fois les syndicats, les partis politiques, voire même les associations, qui sont autant d'acteurs et d'organisations qui permettent de structurer le conflit en démocratie. De le canaliser, hein, de l'organiser d'un certain point de vue, de le réduire éventuellement. Et tous ces corps intermédiaires sont aujourd'hui à la fois critiqués par le pouvoir exécutif, qui les méprise souverainement, hein, par cette épistocratie, ce que j'appelle cette forme d'épistocratie macronienne, qui au nom de la vérité impose et ne ressent pas du tout le besoin de dialoguer. Et sont rejetés aussi par un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui ont une défiance extrêmement forte à l'égard de ces corps intermédiaires. Donc on est dans une sorte de réduction de l'espace du politique dans nos sociétés, au sens où on définirait le politique comme l'organisation finalement du débat et comme la possibilité d'organiser le conflit. Donc voilà pour le constat. Le constat, il est évidemment extrêmement noir. Il est à relativiser selon les sociétés. Toutes les démocraties ne se portent pas aussi mal. Mais il est clair que dans le contexte français, toutes les inquiétudes sur l'issue d'une crise comme celle des Gilets jaunes, sans être spécialement alarmistes, sont justifiées. Alors maintenant, dans un second temps, et pour aller très rapidement, je vais, et on pourra en discuter, je vais voir quels sont, à l'inverse, les signes d'une revitalisation finalement, tout à la fois des institutions, de la démocratie, mais aussi de l'idéal démocratique. Tout ce qui témoigne finalement de ce que j'ai appelé un retour de l'imagination démocratique. Et qui, à mon avis, mérite d'un certain point de vue d'être encouragé. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de la fin du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé dans les sociétés occidentales à partir du moment où les constituants américains, les constituants français ont inventé ce que Bernard Manin appelle le gouvernement représentatif, c'est-à-dire un type de régime qui n'est ni totalement démocratique, ni totalement aristocratique, mais qui est un peu entre les deux. Et je vous renvoie au travail majeur de Bernard Manin, Principe au pluriel du gouvernement représentatif, qui sous-tend évidemment une réflexion comme la mienne. Il nous dit, on a inventé à la fin du XVIIIe siècle un type de régime qui ne permet pas au peuple de se gouverner directement. Alors évidemment, avec toujours l'exception de la Suisse. C'est pour ça que mon propos est un peu en décalage. C'est-à-dire que vous avez ces mécanismes-là, mais sachez que vous êtes quand même assez unique en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que le peuple puisse exercer sa souveraineté, mais en une seule occasion, qui est l'élection. Et une fois que les représentants sont élus, à ce moment-là, ils se substituent au peuple, et celui-ci est renvoyé à ses activités diverses et variées, mais il n'a plus d'existence politique véritable. Et c'est un régime qu'on peut analyser comme un régime de confiscation, évidemment, de la légitimité par la représentation. Et Bernard Manin dit à très juste titre qu'elle peut s'analyser, le gouvernement représentatif peut s'analyser comme un régime qui a mis en place une aristocratie élective, avec une absence finalement de possibilité pour les citoyens de participer réellement, effectivement, avec des conséquences au processus de décision. Alors, ce processus de captation de la légitimité, il a très bien fonctionné jusque il y a une quinzaine, vingtaine d'années, où on s'est mis finalement à contester et à s'apercevoir de ce processus. Alors, je vous passe tous les détails. Au XIXe siècle, évidemment, se sont affrontées différentes définitions du gouvernement représentatif, et ça n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on a commencé à parler de démocratie représentative étant un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. La démocratie, elle ne peut pas être représentative. La démocratie, au sens authentique du terme, elle ne peut être que directe, que participative. Hein? Donc on a inventé finalement cette forme politique-là tout à fait particulière. Alors qu'est-ce qui renaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui renaît? Alors, pêle-mêle, on redécouvre des tas d'instruments, des tas d'institutions qui avaient été refoulées, mises à l'écart, discréditées. On retrouve le tirage au sort. Ça, c'est la nouvelle la plus incroyable. Depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que le tirage au sort est un élément possible et qui avait été jugé historiquement indispensable de désignation des représentants. Et toute une série de dispositifs se fondent aujourd'hui sur le tirage au sort, les assemblées citoyennes, etc., etc., les jurys citoyens. Et on peut imaginer aujourd'hui de redécouvrir ce qui a été un des possibles non advenus de l'histoire de nos démocraties, qui renoue avec l'expérience athénienne. On redécouvre aussi la démocratie d'assemblée. On redécouvre la puissance, finalement, de cette démocratie d'assemblée. Et sur les places, en 2011, à partir de 2011, à Nuit debout. Alors, on est passé de l'Assemblée au rond-point avec les Gilets jaunes. C'est plus difficile, finalement, d'organiser le débat sur un rond-point. Mais on redécouvre l'importance de la coprésence et l'idée selon laquelle la souveraineté doit appartenir aux assemblées. On redécouvre le mandat impératif. Le mandat impératif comme modalité possible de la représentation. Qu'est-ce que c'est que le mandat impératif? C'est le fait que, en fait, le représentant doit rester sous le contrôle, finalement, du représenté en permanence. Comment? Le représenté lui donne des consignes dont il ne peut pas sortir, une des modalités du mandat impératif, ou autre modalité, il doit revenir vers les représentés, le représentant doit revenir pour aller chercher des ordres. Et on a des mouvements, hein, je pense aux partis pirates dans une certaine mesure, je pense par exemple à un petit mouvement français qui s'appelle Ma Voix, qui essaye de réintroduire cette idée de mandat impératif, alors même qu'elle avait été prohibée dans la Constitution française. Il y a un article, l'article 27, qui interdit le mandat impératif. Mais l'idée, c'est que le représentant ne puisse plus trahir les représentés. C'est un point qui est capital. Et dans des tas d'organisations, il y a effectivement une volonté de mettre en place des garde-fous aux représentants. On redécouvre en France, évidemment, et évidemment pas en Suisse, le droit de pétition, mais aussi l'initiative citoyenne comme une possibilité démocratique majeure. On redécouvre aussi, à travers l'idée du grand débat, ce qu'a été l'expérience des cahiers de doléances en France, avec des références innombrables aux cahiers de doléances. Donc, finalement, pour faire vivre ces nouvelles formes de participation démocratique, on redécouvre des tas de dispositifs. Et puis, ce qui me fascine aussi, c'est que ce retour de l'imagination démocratique, il s'accompagne du développement d'un certain nombre d'outils, d'outils ou de procédures nouvelles. Bon, le budget participatif, par exemple, qui est une des modalités aujourd'hui les plus fréquentes et les plus nombreuses de démocratie participative à l'échelle locale. Ce budget participatif, c'est une invention des années 90, une invention brésilienne, mais qui permet aux citoyens de porter des projets et de participer effectivement au processus de décision. Tout ce qui relève des interfaces numériques de la démocratie, tout ce qui relève des civic tech, nous montre que la technologie peut quelquefois, et sous des conditions très restrictives, notamment des conditions finalement d'ouverture des données, peut faciliter la participation citoyenne, la contribution, le dialogue entre représentants et représentants. Donc il y a finalement un développement de technologies, d'une ingénierie de la concertation. Tout ce qui relève aussi de la low-tech démocratique, tout ce qui relève aussi des processus de facilitation, des processus de prise de décision horizontale, tout ce que mettent en œuvre la sociocratie, l'holacratie, tout ce qui facilite finalement la coopération entre les citoyens, tout ça participe de cette révolution démocratique silencieuse, de ce qu'on pourrait appeler l'âge du participatif. C'est-à-dire que, en fait, la démocratie, elle est très vivante. Mais elle est vivante ailleurs que dans l'espace national. Elle est vivante dans des collectifs citoyens, elle est vivante dans des organisations, elle est vivante dans une multiplicité d'expériences. Et ce que je trouve finalement le plus encourageant, c'est justement cette intensité de la vie démocratique dans de très nombreux espaces, mais qui ne sont pas les espaces de la démocratie représentative traditionnelle, qui, eux, sont complètement fossilisés, verrouillés, et ne produisent plus de sens, et ne produisent plus de légitimité. Ce qui se passe sur les ZAD, par exemple, en France, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a été beaucoup documentée, ce sont des formes de vie démocratique. Ce qui se passe dans toutes les formes d'auto-organisation citoyenne, tout ça dessine peut-être une forme d'avenir de la démocratie. Alors, je pourrais vous faire aussi un inventaire des expériences. On me demande toujours, mais ouais, où est-ce que ça marche? En France, où on est particulièrement sceptique à l'égard de cette démocratie participative, on me dit, mais prouve-nous que ça marche. Oui, je pourrais citer l'Irlande, je pourrais citer des villes, y compris françaises, qui font vivre cette démocratie. Par exemple, si ça vous intéresse, il y a un petit documentaire parmi les innombrables documentaires qui sont faits là-dessus, qui a été fait par DataGueule, DataGueule, l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui est une sorte de tour du monde de ces expériences démocratiques. Et je vous le conseille, mais j'ai oublié le titre. J'ai tout oublié le titre, mais vous cherchez sur YouTube, DataGueule, c'est un collectif de YouTubers. Comment ça s'appelle? Et voilà, ils ont pas mal de succès et ils essayent de vulgariser, mais il y en a plein. Il y avait eu un MOOC aussi du mouvement des colibris français. Il y en a plein. Mais bon, on est assailli finalement de retour sur le fait que tout ça peut fonctionner. Et de manière plus générale, et avant que j'en termine par une conclusion beaucoup plus négative, on peut dire qu'il y a 3 stratégies possibles. Il y a 3 stratégies possibles qui sont toutes les 3 ouvertes, plus ou moins ouvertes, pour ceux qui veulent transformer les institutions et aller vers une démocratie authentiquement participative. La première stratégie, c'est la stratégie révolutionnaire. C'est-à-dire, alors je m'appuie évidemment, je paraphrase ici un immense sociologue américain qui est mort il y a 2 semaines, qui est Eric Olin Wright, O2LIN Wright, W-R-I-G-H-T, dans son livre qui s'intitule Utopie réelle, à ne pas confondre avec le livre de Bregman, Utopie réaliste. Mais Utopie réelle, c'est un livre absolument remarquable par un sociologue théoricien qui nous dit qu'il y a 3 stratégies de transformation politique et sociale. Stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire on prend le pouvoir, c'est le grand soir. On prend le pouvoir, y compris politiquement, alors par des voies pacifiques ou non, et on décide de tout changer. Bon. Cette stratégie suscitant quand même très largement le doute, hein, parce qu'elle a déjà été expérimentée, parce que la venue au pouvoir de régimes, de partis qui auraient vraiment l'intention de transformer la démocratie reste relativement douteuse, parce qu'il y a toujours ce mécanisme qui fait que quand un parti arrive au pouvoir, y compris sur un programme ultra-démocratique, il se transforme rapidement. Hein. Depuis Robespierre, tout ça nous est... regardez Cinque Stelle. Vous voyez l'évolution de Cinque Stelle, elle est quand même assez emblématique de ce mécanisme qui est aussi vieux que l'histoire politique, Podemos, etc., etc. Il y a un vrai principe de corruption, finalement, et donc cette stratégie révolutionnaire, ou en tout cas révolutionnaire au sens de la prise du pouvoir, elle est problématique. Il y a une deuxième stratégie qu'il appelle symbiotique, c'est-à-dire qu'on va essayer de transformer les institutions de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va trouver des alliés au sein des institutions, au sein de l'État, pour amener l'État à se réformer lui-même. Et il documente de très nombreux exemples d'efficacité de cette stratégie. Mais cette stratégie, elle se fait sur un temps relativement long et elle se heurte aussi aux résistances, à l'inertie, au refus finalement de se transformer et de partager le pouvoir de très nombreux acteurs qui ont déjà le pouvoir. Et puis la dernière stratégie, c'est la stratégie interstitielle, c'est-à-dire celle qui se situe hors du cadre institutionnel, mais qui essaye de démontrer ici et maintenant que l'on peut changer la réalité. C'est toutes les expériences de gestion des communs, c'est toutes les expériences de ZAD, c'est tout ce dont je vous parlais. Et tout ce qui, d'un certain point de vue, aujourd'hui, a trouvé un cadre théorique dans la théorie du municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Hein, vous savez, ce théoricien de l'écologie et de la politique qui est aujourd'hui incroyablement influent dans les milieux d'activistes autour de l'environnement et de la démocratie. Et Murray Bookchin, municipalisme libertaire, dit en fait, on va tout transformer par le bas. On va finalement multiplier les initiatives et en fait, ça ne sera que la fédération de ces initiatives qui permettra de changer, de basculer d'un paradigme du pouvoir à un autre, d'un paradigme et d'un régime de pouvoir à un autre. Je reste complètement neutre sur ces différentes stratégies, je ne suis pas un activiste, mais elles sont là, et elles sont empruntées par des acteurs différents. Moi, j'ai tendance à avoir une vision relativement écuménique, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas négliger l'espace des partis politiques et des élections, il ne faut pas négliger l'espace de la symbiose, et il ne faut pas négliger du tout, bien au contraire, l'espace de l'auto-organisation. Et puis, dernier point, je vais terminer quand même sur les limites hein, de ces projets de transformation. Ces limites, elles tiennent à plusieurs facteurs. Premier facteur, il est évident que le vieux monde, hein, qui tarde à mourir, garde évidemment des capacités d'influence, des capacités de nuisance extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'avec ce vieux monde, on doit faire avec aussi des facteurs d'influence qui ont une puissance dont l'efficacité n'a pas à être démontrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui anime et ce qui fonde le fonctionnement du système à la fois capitaliste et de la démocratie libérale, c'est la publicité, c'est la communication qui valorise d'autres formes de vie que les formes de vie collectives auxquelles aspirent ceux qui veulent changer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce système et selon cette idéologie, en fait, les citoyens sont incités non pas à coopérer mais à entrer en concurrence les uns avec les autres. Ils sont incités à faire tout autre chose que de la politique. Ils sont incités à consommer, ils sont incités à produire. Et finalement, on ne leur laisse absolument pas le temps de s'organiser et de se mobiliser. Le temps citoyen disponible et alors ce qui va avec une réflexion notamment sur, sur le revenu citoyen universel et des choses de ce type. Ils n'ont pas le temps, même s'ils le voulaient, ils n'auraient pas le temps d'expérimenter d'autres formes de vie politique. Autre problème, deux autres problèmes classiques de l'histoire de la politique ne peuvent pas être négligés et je dois vous avouer que je n'ai de solution ni à l'un ni à l'autre de ces problèmes. Je n'ai pas de solution à ces problèmes. Le premier problème, le premier de ces deux problèmes, c'est le problème de l'échelle. On sait aujourd'hui comment pratiquer la démocratie directe, l'horizontalité à une échelle de quelques centaines de personnes. Ça fonctionne, c'est une évidence, que ce soit sur un territoire ou dans une organisation, ça fonctionne, et je ne vous dis pas que c'est simple, mais c'est possible. Au-delà de cette échelle, la question de la représentation finit toujours par se poser, et la question de la confiance finit, elle aussi, toujours par se poser. Il est incroyablement compliqué, difficile, de matérialiser la possibilité pour chacun de participer à une échelle de taille de population qui va au-delà de quelques milliers de personnes. C'est incroyablement difficile. Parce que finalement, la vie démocratique, elle s'ancre dans des communautés de vie, dans des communautés d'expérience. Et quand il n'y a plus ces communautés de vie ou ces communautés d'expérience, quand il n'y a plus la possibilité de faire l'expérience notamment du face-à-face, ça devient extrêmement compliqué. Et je n'ai pas la solution pour ça. Alors il y a des outils qui peuvent suppléer à ce que pourrait être un dialogue et un face-à-face, mais c'est très compliqué. Et puis l'autre question, c'est la question du leader. Peut-on penser réellement une société politique sans leader, sans leadership? Une société politique parfaitement plane, horizontale. Ce que l'on constate, c'est que, y compris là où on a mené des expériences de démocratie participative particulièrement avancées, il y a toujours eu des leaders. Des leaders qui agissaient en tant que garants de l'expérience. Et en fait, ce qu'il faut repenser, c'est ce que devrait être et ce que pourrait être un leader démocratique et une forme de leadership démocratique. Or, il y a évidemment toujours ce risque. Alors, pour un commandant, sous-commandant Marcos ou un Gandhi ou un Mandela, combien y a-t-il de traîtres à la cause, c'est-à-dire de gens qui finissent par succomber au désir de pouvoir. Et donc le leadership, c'est évidemment la clé, hein, mais ce leadership, c'est à la fois la condition de l'expérience démocratique, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est aussi le risque principal. Et puis dernier élément, et si, de toute façon, et si, et ça c'est spécifique à la France, alors je ne sais pas si ce constat est valable aussi pour la Suisse, mais si on arrivait à transformer les institutions, est-ce que l'on parviendrait réellement à constituer des subjectivités politiques? C'est-à-dire qu'il y a les institutions et puis il y a les subjectivités, il y a les citoyens, les représentations, les valeurs. Or, il faudrait aujourd'hui faire quelque chose de particulièrement compliqué, c'est introduire des institutions démocratiques dans des sociétés composées de citoyens qui n'ont pas expérimentés, qui n'ont pas fait l'apprentissage ni des valeurs, ni des compétences de la démocratie. Et je pense en particulier en France, où notre système scolaire est le facteur principal de constitution des inégalités et des incapacités démocratiques. On a un système scolaire, et pour moi c'est devenu la clé de l'enjeu, qui est ultra compétitif, ultra individualiste, ultra élitiste, et qui brise toute velléité de coopération entre les citoyens. Et donc, le problème, c'est le problème du temps. Pour former éventuellement, à condition qu'on le veuille, de nouvelles subjectivités, il faudrait que ça passe par la socialisation scolaire. Ça prendra beaucoup de temps. Et la possibilité de construire la démocratie sans conscience citoyenne, c'est compliqué. Voilà. J'ai été long, hein? Il me regarde, il n'est pas content. Hein, non, il était trop long, mais bon, tant pis, je me suis lancé. Bon, voilà.
Merci, Luc.
Merci.